7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h43, bientôt 8h44. Merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, ce sera l'analyse de Rémi Tell. Nous reviendrons sur les aumôneries des hôpitaux et les curieuses décisions qui ont lieu en ce moment, puisqu'on les renvoie. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre. Oh là, vous avez l'air dans un sale état là. Ça vous arrive quoi ?
Ouais, il fait chaud comme l'actualité, elle est chaude l'actualité. Pfiou. Qui fait chaud ? Qui fait chaud ? Les canicules s'emballent et moi je vois les gens qui sont là à suer partout comme des cochons, sauf que ça sue pas un cochon, donc mon analogie elle est nulle en plus, ça m'énerve de rater si tôt ma chronique. Surtout que c'est même pas comme si j'improvisais, hein, parce que j'ai tout écrit hier, donc j'ai aucune excuse. Non mais, bon, bref, je m'en veux de toute cette chaleur.
Vous vous en voulez de votre chaleur ? Ça se porte bien, votre syndrome de personnage principal, là ?
Ah mais le réchauffement climatique, c'est un peu à cause de moi, quand même. Alors, je sais, vous vous dites, a priori, oui, je suis responsable, en gros, d'un 8 milliardième de degrés supplémentaires, c'est pas la peine de battre ma coulpe comme des œufs qu'on fait monter en neige. La neige, ça me manque, la neige. Non, parce que la neige, c'est... Donc non. Mais il me faudrait de la plage. Ou alors, on va enlever les pavés, et sous les pavés, la plage. Ah oui, c'était mieux mai 68. Comme d'ailleurs, Richard, c'était comment le mois de mai avant le réchauffement climatique vers 1880 hein? Non, non, voilà, répondez pas. Je vais pas me laisser abandonner à la nostalgie. Non mais c'est vrai, je m'en veux de toute cette chaleur. Je sais que j'aurais pas dû rouler en char léopard diesel, voyager en rafale toute l'année et puis laisser aller à fond le chauffage au charbon de vos 8 résidences secondaires, Richard. Surtout le château en ruine que vous avez à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, mais j'ai été très mauvais. Bon, bon, bref, il fait chaud, donc les gens vont à la plage. Et à la plage, eh ben, ils vont à la boule.
C'est terrible, voilà. Voilà les gars, c'est grave. Il n'y aura pas de place, voilà.
Voilà, 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 voilà qui je suis. Non mais, ouais, ce que vous venez d'entendre, donc c'est une foule de gens de diversité prenant le train à la boule. Alors vous imaginez bien que les habitants étaient très heureux d'être enrichis comme ça. Hein. En revanche, évidemment, l'enrichissement amène toujours son lot de surprises et elles ont été assez bien décrites tout en nuances par l'éminent Xavier Van Lier de mercredi. Écoutez plutôt.
Dont une immigration massive incontrôlée, un multiculturalisme débridé et un laxisme sécuritaire coupable finissent par littéralement pourrir la vie des Français jusque dans les recoins jadis réputés les plus paisibles du pays, de ces populations, mais à lutter contre les nuisances, les occupations d'espaces publics, les rodéos, les trafics de rue, les violences urbaines, les conflits de voisinage, les atteintes à la tranquillité publique. Pour lutter contre les cambriolages, les dépôts sauvages, les incivilités et les trafics en tout genre dans l'espace public. Les barbares y déferler et effrayer les vacanciers, les clients et toutes les familles paisibles.
Alors vraiment, j'aurais pu continuer 2-3 minutes comme ça de plus avec l'entretien de l'autre jour. Hein. C'était mercredi, mais j'ai eu un peu peur que la chronique finisse par être classée Peggy 18. Non mais, et à côté, on aimerait presque adapter ça en musique, faire un clip avec des images de ce qui se passe chaque jour dans le pays. Mais du coup, non, désolé, je vais pas le faire. J'aurais adoré, mais je vais avoir besoin d'un peu plus de messages de supplication de la part de mes fans pour le faire. Et oui, je parle bien de vous deux,
oui,
mes
oui.
Deux seuls fans, hein, Richard et Arnaud. Enfin voilà, vous êtes deux. Voilà, c'est un début, mais bon, tous les auditeurs, évidemment, je compte pas sur vous. En plus, vous êtes des sales fachos. Donc, bon, bref, à la boule. Donc, ils ont goûté un peu à ça, les sales bolets, là. Et puis, il y a une grosse rixe entre des gens qu'on voit pas souvent là-bas. Alors voilà, c'était vraiment une catastrophe, sorte de marée noire, si vous me passez l'expression, absolument terrible. Donc on a eu, heureusement quand même, un peu pour nous sortir de tout ça, on a eu le droit à un conseil très avisé d'un ancien Premier ministre, Édouard Philippe.
Je recommande pas de faire des économies sur notre sécurité dans un monde dangereux. Et alors, mais vraiment pas.
Ouais, c'est puissant,
bah, c'est bien.
Oui, bah attention, bah, le type a pas visiblement perdu ses sourcils, son charisme a aussi disparu. Donc, voilà, si jamais vous voyez le charisme d'Edouard Philippe, je vous prie de l'envoyer à la poste à la mairie du Havre. Donc voilà, j'ajoute quand même que Edouard, si jamais tu nous écoutes, hein, la baisse des limitations de vitesse, c'est sur la route, pas forcément aussi sur le cerveau. Bon, donc forcément, j'ai un peu de peine pour les 70% d'électeurs macronistes de là-bas, là, à la boule, qui avaient jamais vu autant de chance pour la France et qui pensaient qu'Edouard Philippe disait des trucs intelligents. Mais d'un autre côté, moi, je n'ai jamais été un football. Allez, hop, on perd pas de temps, vous hurlerez des rires après, on enchaîne. Bon alors, quiz, c'est le quiz, c'est le moment quiz. Arnaud GPT, qu'est-ce qui se passe parfois en été quand il fait très chaud?
Y a des choses qui brûlent.
Bravo, ça s'appelle un incendie. Bon, et alors, on a besoin de quoi pour arrêter le feu?
De l'eau.
Excellent Arnaud GPT, bon alors, on la trouve où l'eau, dans les villes?
Sous la terre.
Oui, très bien, mais plus précisément, comment les pompiers y font pour trouver l'eau?
Ah, ils utilisent des bornes incendies.
Très bien. Alors pourquoi les immigrés et leurs descendants, ils dégomment les bornes incendies en plein été, précisément au moment où les pompiers ont le plus besoin d'eau? Ah, allez, réponds Arnaud GPT là.
C'est très simple Alexandre, c'est parce que...
Ouais, bah, merci l'Arcom de la censure en direct, c'est vrai que ça va plus vite comme ça.
Allez, Alexandre, cette nuitée d'Edouard Philippe, ça va bien profiter à quelqu'un, non?
Eh bah oui, ça va profiter à une personne, et cette personne, c'est Gabriel Attal. Alors, les agressions à la machette, les attentats terroristes, les attaques au couteau, l'alopécie précoce, c'est...
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Les tags sur la mairie du Havre, les génocides et les candidatures à l'élection présidente, à la présidentielle foireuse, c'est...
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Et surtout, pour la France...
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Voilà, donc c'est vraiment mon annonce de candidature préférée. Le type, il va à Dunkerque-sur-Garonne, c'est un village de 122 habitants, il a jamais foutu les pieds de sa vie, pour expliquer qu'il se présente pour 2027. Le gars a quand même choisi le seul village de France qui compte plus de caméras de l'audiovisuel public que d'habitants. Le soir même, le type, il est revenu à Paris pour expliquer au JT de TF1 qu'il avait pas fait son annonce au JT de TF1, mais à Dunkerque-sur-l'Adour, et que c'est pour ça qu'il est différent. Et puis le lendemain, il revient avec ses caméras pour aller se taper un aligot raclette flamme-queuche dès 7h du mat avec une demi-bouteille de Calvin pour faire passer ça avant d'aller chasser l'ours des Pyrénées en chantant la Strasbourgeoise. Puis bah, il revient tranquillement le soir dans son coron en peignée à Bayona, et avant de dormir, Gabriel Attal essaye pendant de longues heures de faire un enfant à son petit ami Stéphane Séjourné, comme tous les soirs depuis 2 ans. Malheureusement, pour une raison qui nous échappe, ça ne marche pas. Donc il y a pas à dire, hein, l'héritage de François Hollande, c'est vraiment écouter nouveau président normal quoi. Enfin, faut dire, mélangeant autant de clichés d'un coup, c'est certain que tous les Français, ils vont finir par retrouver quelque chose, hein, dans Gabriel Attal. Il y a un peu pour tous les goûts. Bon, alors après sur le côté médiatique, je suis pas certain à 100% que c'est une si bonne idée de filmer également en direct sur BFM TV les tentatives de Gabriel Attal pour avoir un enfant. Enfin, disons que ça va pas aider vraiment à dormir le soir de voir ça en zappant après Koh-Lanta, le match de nuit de Roland Garros ou Cauchemar en cuisine quoi. La vache Brandon, je t'ai expliqué 15 fois que la truite congelée, ça n'allait pas dans le avec le veau maringo. Alors arrête de me parler de citron caviar et éteins ce four, bordel. Fais pas chauffer les concombres à la crème. Et superbe revers de Novak Djokovic qui avait construit ce point d'une main de maître, 6-2, 5-3 contre Stefanos Tsitsipas. Faut dire que ces frappes claquées, c'est vraiment sa spécialité. Et alors, Alain Duhamel, vous êtes ici pour commenter votre spécialité, la consanguinité, l'endogamie du système. On voit actuellement l'ancien Premier ministre se déshabiller en direct sur BFM. Qu'est-ce que vous pronostiquez? En fait, je dirais qu'il faut être cohérent et que les fesses de Stéphane Séjourné...
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Désolé les fachos, hein, va falloir soutenir parce que là, s'ils y arrivent pas, ils vont faire une GPA. Il faut bien que ça serve à quelque chose de soutenir l'Ukraine quand même. Hein. Qui veut le bébé? Qui veut? Ils sont frais, mes bébés, ils sont frais. Bah. Alors les macronistes, ces temps-ci, entre Gabriel Attal et sa GPA, il y a le Brown Pivet qui veut euthanaser tout le monde et il est pas sorti de l'auberge. Hein. Tout ce qui est naturel, de près ou de loin, ça les effraie. Et les effraie, c'est chouette. Bah, bref, non, mais, bref, donc tout ça, c'est le progrès. Donc chez le parti de Renaissance et de la République qui marche ensemble vers l'horizon de la responsabilité. Ouais, voilà. Donc, tous ceux qui critiquaient Macron sur son couple avec Brigitte, franchement, déjà, il s'est rattrapé en se mettant avec Goldshifteh Farahani. Mais vous préférez lui ou Attal ses journées?
Ça, je sais pas. Enfin, c'est quoi ces questions
J'ai passé mon temps pour cette fois. Justement, il en pense quoi, Emmanuel Macron, de tout ça?
Écoutez, j'ai deux successeurs. Le premier, c'est un ex-blaireau qui vit dans la ville la plus déprimante de France, en responsabilité. Qui veut la retraite à 72 ans, qu'on roule à 40 sur l'autoroute, et qui a le charisme d'un trèfle à trois feuilles. Le deuxième, je l'ai changé 5 fois de poste, pour empêcher de coucher avec tous mes ministres masculins. D'ailleurs, Bruno Retailleau, il l'a échappé belle. Et son programme, c'est de modifier la constitution, pour acheter un gamin qui devrait aller se battre contre les Russes, et supprimer le poste de première dame. Franchement, je fais quoi avec deux oeufs pareils?
Excellente question, en effet, peut-être qu'un autre président pourrait nous aider à y voir plus clair.
Je sais pas bien quoi vous dire. Après, je fais vite parce que je dois retourner au tribunal, mais si j'étais à ta place, Emmanuel, je vais te dire, Manu, je les enverrais tous balader. Édouard Philippe, il est gentil, mais il fait envie à personne. Gabriel Attal, il a envie de tout le monde, c'est pas sérieux. Il a passé 6 mois à Matignon, il a la même couleur des cheveux que Gandalf après avoir battu le Balrog. Il tiendra jamais le coup. Retailleau, Dernière fois qu'il a rigolé, c'était en 1987. Alors, je vais te donner un conseil, Manu. Je connais un gars, il est jeune, il a plein d'idées, et il est super fort. Très loyal, je l'aime beaucoup. S'appelle Louis, j'ai te filé son numéro. Merci, papounet.
Bah, visiblement, c'est pas gagné pour les conseils de ce côté. Il y a aussi un premier ministre qui voudrait réagir.
Je partage le constat de mon meilleur ennemi, mais je diverge sur les solutions. Il faut faire le choix de l'humanisme, de la République et de l'humanisme. En 2003, un homme s'est dressé contre les tentations populistes, lançant au monde un cri humaniste face aux néo-conservateurs américains. Cet homme humaniste s'appelait Dominique de Villepin. Aujourd'hui, il songe. Il veille en humaniste. Il se tient prêt à reprendre le flambeau.
Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, pour conclure, vous vouliez nous donner une bonne nouvelle. Les Français ont été enfin entendus.
Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment, on en désespérait, mais on finit par y arriver. Hein. Alors bon, au vu de la situation actuelle, vous dites que c'est peut-être sur les questions de pouvoir d'achat, du prix du carburant, de souveraineté, d'insécurité, de crise migratoire. Tout ça, ça va être résolu. C'est peut-être ce que vous dites. Hein. Mais que nenni. Non. Là, ce qui a vraiment progressé, c'est que les Français, comme vous et moi, ont enfin été écoutés sur une mesure déterminante prise par l'Assemblée nationale hier. Alors, tenez-vous bien, vous êtes prêts ? Ah, prêts pour la bonne nouvelle. 1, 2, 3. Le code noir a été abrogé !
Ouais,
ça y est. Donc en France, en 2026, on a abrogé un texte qui a été aboli en 1848 sous la Deuxième République. Ouais, franchement, ça valait bien le coup d'y passer autant de temps. On n'imagine pas l'impact... Non, c'est, sérieusement, on n'imagine pas l'impact incroyable que cette mesure aura. Ça va notamment changer...
Eh ben, ouais, rien en fait.
Non mais si, ça va. Ouais. Bon bah, ouais. Bah, la semaine prochaine. Hein.
Bah voilà. Merci Alexandre.
Ligne droite, l'analyse.
Et cette analyse, c'est avec Rémi Tell qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être en studio. Bonjour Rémi.
Bonjour Richard, bonjour à tous. Plaisir partagé. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Et pas depuis Toulouse.
On a lu la même nouvelle, donc un hôpital a décidé de licencier ses aumôniers.
Oui, Richard, le 15 avril dernier, en plein débat sur la fin de vie, le centre hospitalier régional de Tours, c'est à Tours que ça se passe, a annoncé la suppression de 4 postes d'aumôniers de l'établissement au motif de contraintes financières. Alors il va sans dire que la décision a suscité quelques critiques, sauf, paradoxalement, au sein du diocèse, trop bien élevé peut-être par l'épiscopat français. Les aumôniers d'hôpitaux, rappelons-le, ce sont des prêtres et des laïcs qui visitent les malades, non pour évangéliser, mais pour proposer ce que notre système de santé n'offre plus, du temps humain, de l'écoute, un soutien émotionnel aussi sans jugement. Et c'est vrai que quand ces aumôniers sont des prêtres, que les patients le désirent, ils peuvent confesser et administrer les derniers sacrements. Mais précisons quand même que cette pastorale est donnée par l'Église pour tous, sans aucune distinction. Au-delà de l'enjeu immédiat soulevé par cette décision du centre hospitalier de Tours, et alors que la loi d'euthanasie la plus permissive du monde pourrait être définitivement adoptée le 22 juin, cette décision nous dit peut-être quelque chose, Richard, de notre rapport à la vie et à la mort. Un rapport placé sous le signe des fruits pourris de la modernité et notamment de la crise de la relation, débordée par l'utilitarisme marchand, l'aliénation numérique, le relativisme généralisé. Et peut-être que 2000 ans plus tard, nous en sommes toujours réduits à cette question de Ponce Pilate, question désinvolte, presque résignée. Mais qu'est-ce que la vérité ? Sans vérité, et disons-le, sans vérité spirituelle, rien ne retient plus l'individu dans le giron du collectif lorsque le temps le rend trop faible, trop fatigué ou trop fripé. Cher flétri, c'est fini. Pas d'intérieur, juste les dehors d'une existence abîmée, au point qu'en toute bonne conscience, on s'en remette aujourd'hui à donner la mort sur ordonnance. Il ne faudra pas s'étonner, Richard, si des agressions barbares émaillent encore la finale de la Ligue des Champions samedi. Il ne faudra pas s'étonner que l'ordre des vétérinaires alerte il y a quelques jours sur la flambée de consultations de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se prennent tantôt pour des chats, tantôt pour des chiens. Ce n'est pas un autre sujet, c'est le même sujet, celui de la profanation comme signe des temps et de personnes auxquelles on dénie tout monde intérieur. qui envisage l'autre et qui s'envisage elle-même comme un tas d'organes. Vivement que tout ça change, Dieu vient à notre aide, à notre secours.
Alors, merci pour cette chronique. J'avoue que l'alerte de l'ordre des vétérinaires face à l'afflux de gens qui se prennent pour des chats et des chiens m'avait totalement échappé. Et si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce que vous nous apprenez là ?
Oui, de la même façon qu'il y a quelques mois, certains gynécologues avaient lancé l'alerte et l'un d'entre eux a même été condamné parce que des hommes, des jeunes hommes souvent, consultaient pour des problèmes gynécologiques, que cette consultation était de facto rendue impossible, suscitant des crispations et des plaintes de la part des patients refusés. Là, ce sont les vétérinaires maintenant, alors ça porte un nom que j'ai oublié, mais qui accueillent dans leur cabinet des gens pour eux-mêmes, non pour un petit animal qu'ils accompagnent, mais pour eux-mêmes parce que se considérant ou s'identifiant à telle ou telle espèce, ils estiment, assez logiquement, devoir recevoir le traitement qu'on donne à l'espèce en question. Et on peut les pointer du doigt en se disant ils sont complètement malades. Oui, sans doute le sont-ils. Mais quelle souffrance faut-il ? Quel effondrement intérieur ? Quelle absence de main tendue ? Qu'a-t-on fait pour qu'ils en arrivent là ? Comment la société n'a pas su les accueillir pour ce qu'ils étaient véritablement, pour qu'ils en viennent à la conclusion que, en s'identifiant à un chat ou en s'identifiant à un chien, ils trouveront là le sens de leur vie ? Et on parlait de Ponce Pilate, le Christ a retiré du monde la logique du bouc émissaire. Je crois que parfois, y compris dans nos indignations, on devrait se poser une question qui est celle de la responsabilité collective de ces dérives. Et oui, bien sûr, il y a quelque chose d'absolument effarant dans ce qu'on observe chez ces associations et dans certains milieux aujourd'hui. Mais qu'a-t-on fait ou que n'a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait précisément pour retenir ces jeunes et pour les retenir dans le giron de notre humanité commune qui ne peut être qu'une humanité partagée ?
Alors, cette humanité partagée, c'est justement le rôle des aumôniers de prison. Alors, évidemment, l'Église catholique en parle, mais si on va sur le site du ministère de la Santé, il y a la définition du poste de l'aumônier, aumônière. Et effectivement, comme il n'est pas nécessaire d'être ni ordonné, ni religieux, donc ça peut être des laïcs, hommes ou femmes qui occupent ce poste. Et donc, c'est intégré normalement dans le système de santé. Avec des connaissances psychologiques approfondies qui sont requises et qui sont là pour, en fait, accompagner et spirituellement les personnes, voilà, les médecins ayant autre chose à faire, ou même considérant sans doute que la spiritualité est en soi une maladie mentale. Donc, on se retrouve avec un service social qui est prévu, en fait, dans le... sinon par la loi, en tout cas du moins dans le fonctionnement normal de l'hôpital. Et l'hôpital de Tours décide qu'en fait, il n'y a pas besoin de ce confort, il n'y a pas besoin de ce réconfort surtout, en fait que les personnes qui rentrent à l'hôpital ne sont désormais que des organismes malades que l'hôpital doit remettre sur pied, ou des organismes déficients dont l'hôpital doit constater la déficience irrémédiable et donc prendre les conclusions qui s'imposent, et vraisemblablement pousser à l'euthanasie, voire euthanasier, sans même demander un quelconque assentiment.
L'isolement rend malade et la relation est un soin. Et c'est ce que montre toute la littérature scientifique. Les personnes qui sont seules, socialement, familialement, rencontrent des risques très accrus de développer un certain nombre de maladies chroniques graves, des cancers, des maladies neurodégénératives, par exemple. Et la solitude est un problème à part entière aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quelques années, au Royaume-Uni, on avait créé un ministère de la lutte contre l'isolement. Et c'était pas bête comme idée. De mémoire, il y a une personne sur cinq dans notre pays qui a moins d'une conversation par jour. Sachant que parmi les conversations retenues, il y a celle avec la boulangère de 30 secondes. Et on n'imagine pas ce qui se passe derrière les murs des appartements et les murs des maisons. Il y a une très, très grande souffrance aujourd'hui sociale. Et comme la famille a éclaté, comme toutes les structures de liens traditionnels ont éclaté, on se retrouve face à soi-même. Et quand on est face à soi-même, dans la tristesse, eh bien, on tombe malade. Et en cela, la relation est un soin. Et c'est ce que proposent précisément ces aumôniers. Et ils pallient plutôt aux insuffisances du système de santé qui devrait se satisfaire et se réjouir de pouvoir compter sur leur présence. Parce qu'on a évoqué le cas des aumôniers officiels, mais il y a aussi énormément de bénévoles. De la même façon qu'on trouve des bénévoles en soins palliatifs qui sont des gens qui donnent du temps gratuitement pour permettre d'avoir un peu de sourire et d'apaiser un certain nombre de douleurs psychiques, ce qui, in fine, apaise aussi la douleur physique. Et ça recouvre, mais pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, une conception du soin allopathique, médicamenteuse, qui est aujourd'hui véritablement insuffisante et qui ne peut pas se substituer complètement à la relation humaine. Et dans tous les pays où on avance sur la question du soin, c'est dans une démarche holistique qu'on avance, c'est-à-dire sur tous les aspects de la vie. Et on n'est pas des statistiques, on n'est pas des tas d'organes, on n'est pas des patients ou des dossiers médicaux, nous sommes des personnes. Et une personne humaine, elle vit des émotions, elle porte des espérances, elle porte des regrets. Et pour avancer sur le chemin de cette vie intérieure, elle doit rencontrer l'autre. Et c'est ce que permettent justement les aumôniers, et c'est la raison pour laquelle c'est assez dramatique qu'on commence à s'en passer aujourd'hui.
Alors, l'hôpital de Tours est évidemment exceptionnel dans la décision qu'il a prise, et néanmoins, voilà, ça a fait un petit remous, mais pas plus que ça, et d'ailleurs l'hôpital de Tours n'est pas revenu sur sa décision. Voilà, donc les raisons financières avancées ont paru suffisantes.
Non, de la même façon que l'examen final, parce qu'évidemment c'est lié de la proposition de loi de fin de vie le 22 juin, pose d'énormes questions éthiques. Vous revenez régulièrement dessus sur votre antenne avec vos différents invités, et que personne ne semble véritablement préoccupé par ce qui va se passer. Il y a des brèches aujourd'hui dans le texte. Il y a des brèches pour les personnes. Il y a 700 000 Français en situation de handicap mental qui présentent des comorbidités et qui vont devenir de facto éligibles à l'aide à mourir. Ce sont des gens pour lesquels on propose des protections juridiques sur des aspects mineurs de leur vie. Pour aller faire des courses, il faut l'accord de la tutelle ou il faut l'accord de la curatelle. Par contre, ils pourraient seuls prendre cette décision d'accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté sans que quiconque autour ne vérifie véritablement le caractère éclairé de leur consentement et de leur discernement. Vous avez vu des manifestations en France, des cris poussés par-ci ou par-là. Non, nous sommes dans la société des ventres, nous sommes dans la société du ventre, et les gens n'en sont pas spécialement coupables, mais nous en sommes tous collectivement responsables. Et vous vous rappelez peut-être de cet avertissement qu'avait lancé Solzhenitsyn en 78, de mémoire, ça devait être à l'université d'Harvard ou dans une université américaine. Et tout en rejetant le matérialisme de l'Union soviétique, il disait « Méfiez-vous, prenez garde à ne pas, par le capitalisme débridé dans lequel vous êtes, devenir le miroir inversé de ce système soviétique et d'une société qui a perdu tout sens de l'humanité et donc tout sens de l'âme en réalité. »
Oui, ça, et Michel Henry avait publié, donc métaphysicien français admirable, qui a notamment eu comme élève Jean-Luc Marion, avait sorti « Du communisme au capitalisme, théorie d'une catastrophe » aux éditions Odile Jacob après la chute de l'URSS, où il faisait exactement le même constat qu'annonçait, enfin il faisait le constat des prophéties de Solzhenitsyn. Dans ce qui se joue aujourd'hui, et donc dans la manière dont la société contemporaine a réussi à dissoudre tous les liens, on voit bien qu'il y a une mutation assez perverse. C'est-à-dire, tous les liens naturels comme, qui sont ceux de la famille sont réputés pervers, nocifs, toxiques, et on plaide pour la reconstitution de liens choisis sur une base quasi contractualiste, où ayant éliminé tout ce qui est naturel, ce serait des liens particulièrement généreux, éthiques, purs, qui pourraient être reconstruits. C'est Gabriel Attal qui explique qu'il veut promouvoir la GPA, ou c'est le gouvernement qui a une proposition de loi sur la table où il explique que tous les enfants qui auront été retirés à leurs parents par l'État pourront être proposés à l'adoption, c'est-à-dire non seulement on arrache l'enfant à sa famille, sachant qu'il y a des centaines de milliers de placements en France, c'est-à-dire 5 fois plus qu'en Italie pour une population équivalente, et donc il y a évidemment un nombre de placements abusifs extrêmes, avec une administration qui refuse en permanence de reconnaître ses torts. Et cette loi donc propose donc que l'enfant qui a été retiré à sa famille naturelle soit donné en fait à quelqu'un qui en fait la demande, et que l'État aura jugé être plus responsable. Est-ce que ces liens d'une nouvelle espèce vont permettre de créer une véritable relation, ou est-ce qu'ils ne sont pas viciés d'emblée? Ma réponse est totalement fermée et absolument orientée.
Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. Et les cas de plus en plus nombreux, par exemple, d'abus, qui sont documentés aux États-Unis notamment, sur des enfants qu'on a adoptés à la suite d'une gestation pour autrui. Tout ça commence à être documenté. Il y a une littérature naissante sur le sujet. Partout où on défait l'idée qu'il y a quelque chose d'infini dans l'homme qui dépasse le simple calcul de l'intérêt, ça se termine dans des dérives qui sont des dérives criminelles. Il y a un exemple que vous n'avez pas cité, qu'on aurait pu citer. C'est ce scandale du périscolaire à Paris. Et peut-être plus encore, l'élection d'Emmanuel Grégoire en dépit du scandale du périscolaire à Paris. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait 2 millions de Parisiens, une partie d'entre eux en tout cas, dont beaucoup sans doute sont des parents, après avoir appris, parce que Rachida Dati l'avait dit, ça a été communiqué sur les grandes chaînes d'information en continu, après avoir appris ce scandale du périscolaire à Paris, sans école concernée quand même, et préférer voter pour Emmanuel Grégoire pour des raisons bassement pratiques, bassement matérielles, parce que c'était plus de vélos, c'était la piétonnisation d'un certain nombre de rues à Paris. La piétonnisation d'un certain nombre de rues à Paris l'emporte donc sur le risque que son enfant soit victime d'abus sexuels pour un certain nombre de Parisiens. Ils ont été quand même nombreux à voter pour Emmanuel Grégoire. Et d'ailleurs, c'est là où on voit bien que les logiques à la fois minoritaires et puis parfois un peu démoniaques portées dans le champ politique, on ne peut pas se contenter de les voir, mais aussi de s'interroger sur notre propre façon de fonctionner aujourd'hui et sur notre propre rapport complètement dégradé à l'humanité. Et il y a toujours un temps. Il y a un temps où tout va bien, il y a un temps où on est dans la fleur de l'âge, comme nous autres, où on peut profiter de ce que la vie, y compris la vie organique, a de meilleur à proposer. Et puis il y a un temps, toujours, aujourd'hui, où la fleur se fane. Et si la situation de ces enfants ne nous invite pas à changer notre regard, au moins pour nous-mêmes, pour ce que nous deviendrons dans quelques années, essayons d'y méditer quand même une minute. Parce que on reconnaît un arbre à ses fruits, et partout où cet arbre a été fabriqué de toutes pièces, avec des racines factices et avec des branches factices, ces liens familiaux qu'on compose un petit peu comme un Rubik's Cube ou comme, vous savez, ces dominos, partout, les fruits ont été très amers pour ceux qui les ont goûtés.
Il y a une espèce de refus idéologique français de regarder en fait ce qui se passe chez les autres. Voilà. On a beau annoncer que l'exemple de la Belgique, du Canada sont absolument terribles en matière d'euthanasie, et c'est pas grave. Les partisans de l'euthanasie en France ont beau comme le Touraine être terriblement direct dans leurs réclamations en expliquant que, bien sûr, leur idée est de faire en sorte que tout le monde, un jour, puisse être euthanasié, y compris les enfants, y compris les débiles mentaux, etc. Donc, autrement dit, tout est sur la table pour que la décision ne soit pas prise d'autoriser une euthanasie dont on sait qu'elle va produire les dérives les plus abominables. C'est pas grave, on y va quand même. La GPA, vous l'avez dit, est documentée. On sait non seulement qu'il y a un esclavagisme contemporain et que la plupart des personnes à qui on arrache leurs enfants ne sont à peine volontaires ou en tout cas sont réduits à accepter cette solution uniquement par détresse et par misère. On a des exemples documentés d'enfants qui ont été avortés parce qu'on avait pu vérifier in utero qu'ils avaient un défaut de fabrication, et donc ce défaut de fabrication évidemment fait en sorte que cet amas de cellules, pour parler comme une féministe, a été jeté à la poubelle et pour qu'on puisse en fabriquer un qui soit propre. Eh bien, c'est pas grave, le candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, nous explique qu'il faut faire advenir la GPA avec évidemment un service social à la française qui sera vraisemblablement aussi efficace que l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, on apprend qu'il y a entre 15 et 20 000 enfants qui ont été confiés à ces soins et qui, par ces soins, ont été confiés à des gens qui les prostituent ou les laissent se prostituer. Eh bien, c'est pas grave, pas de remise en cause de l'aide sociale à l'enfance. Comment expliquer qu'il y ait en France une telle volonté de ne pas considérer le réel dès qu'il s'agit de famille et de dignité de la personne humaine?
Parce que la crise de la relation, c'est une crise de la moralité, nécessairement, puisque la moralité, elle se bâtit toujours dans un vis-à-vis avec le ciel ou avec l'homme ou la femme en face de nous. Donc, quand cette relation est compliquée, quand on bâtit des obstacles, numériques, des obstacles symboliques, nécessairement, c'est l'indifférence qui résulte de tout ça, et de cette indifférence, c'est une indifférence morale. Philippe Vigier, qui est le nouveau rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie, avait eu cette phrase en 2021 lors de l'examen du projet de loi dit bioéthique: il faut traquer les anomalies génétiques in utero pour les éliminer. Il avait dit cela, il faut traquer les anomalies génétiques in utero pour les éliminer. Vous observerez d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qu'on voit moins dans les rues en France. Il y a quelques années, quelques décennies encore, on pouvait croiser beaucoup de personnes atteintes de nanisme. On n'en trouve plus aujourd'hui parce qu'ils ont été avortés. C'était pareil aussi pour la trisomie 21. Et tout ça, eh bien, se fait dans le silence un peu feutré des cabinets médicaux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'observer qu'à la fois on estime que c'est la chose la plus normale qui soit. Et quand les médecins vous disent « venez voir les soins palliatifs, venez voir, comme Israël Nizan, le professeur Israël Nizan, ce qu'il en coûte d'avorter un bébé à 14 semaines aménorrhée », « ah non, surtout pas, on n'ira pas ». Il y a ce paradoxe-là qui témoigne en fait d'une jouissance et d'une volonté de jouissance instantanée, quoi qu'il en coûte aux autres. Quoi qu'il en coûte aux autres, et d'une jouissance donc qui se situe sur le même plan que le plan avec lequel on envisage l'autre aujourd'hui, à savoir le plan organique, strictement organique. Et pareil, il y a un certain nombre de sujets d'actualité qui peuvent témoigner de cela. Bon, on en est là aujourd'hui, sur quelle base reconstruire surtout? Sur quelle base reconstruire? Il y a évidemment la question spirituelle et de cette dynamique aujourd'hui, de cet appel même, disons-le, de cet appel que vivent un certain nombre de nos compatriotes, notamment parce que cette France qui a été à l'avant-garde de la modernité, qui l'a poussée dans tous ses excès, c'est symptomatique, est aussi celle qui, de la façon la plus prononcée, revient aujourd'hui vers l'Église. Donc il y a cet appel particulier en France. Il faut l'écouter dans nos vies, il faut accepter de l'entendre, d'accompagner aussi les transformations intérieures qu'il produit. Je suis revenu de beaucoup de choses depuis quelques mois, depuis quelques années, précisément dans la perception que j'ai de la relation humaine et de la relation à l'autre, si différent soit-il. Donc ça, c'est peut-être l'une des premières bases. Et puis, la deuxième base, c'est de pouvoir recommencer à se parler. À l'Assemblée nationale, il y a quelques jours un colloque autour de la question de la fin de vie, de l'euthanasie et du handicap lourd. Et vous aviez des gens qui étaient très différents à ce colloque. Vous aviez des collectifs anti-activistes qui sont plutôt à gauche, voire très à gauche. Et puis, la partie plus traditionnelle, on va dire, la mobilisation anti-euthanasie et suicide assisté, à savoir une droite conservatrice et catholique. Pour la première fois, ces gens-là se sont parlé et ils se sont entendus sur quelque chose qui les dépasse, la loi, mais surtout la loi dans ce qu'elle ne reflète pas d'une conception digne de la personne humaine. Et je crois que cette question-là de retrouver la possibilité de parler à l'autre et pour ça de sortir de la logique du bouc émissaire est sans doute aussi indispensable pour pouvoir justement reconstruire sur ces ruines morales, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles qui sont le produit de 250 années de modernité en France.
Alors, cet espoir que vous faites vibrer de gens capables de s'entendre, effectivement, on s'est rendu compte que la gauche, l'extrême gauche même, était opposée à une loi validiste et en fait, était quand même plus capable de se mobiliser qu'une droite républicaine, somme toute assez molle et prête une fois de plus à s'abandonner au progressisme de peur d'être un garde. On sent là qu'il y a un frémissement et que l'opinion publique est prête à ne pas aller dans le sens de la loi. Les Écossais ont voté contre l'euthanasie, les Anglais ont voté contre l'euthanasie. Donc, autrement dit, il y a des pays développés, il y a des pays progressistes, il y a des pays de gauche, puisque l'Écosse vote à gauche, l'Angleterre est travailliste pour le moment, qui sont capables en fait, de rejeter cette loi. Là aussi, les députés français vont-ils considérer qu'il y a une exception française, c'est-à-dire qu'il ne serait pas exceptionnel, puisqu'on se contenterait de prendre le train déjà en marche, montré avec les locomotives canadiennes et belges. Et pensez-vous que les députés vont entendre raison et se dire que si d'un bout à l'autre de l'échiquier politique sur l'ensemble du globe, il y a des gens qui considèrent que c'est nul, ils vont peut-être se retenir ?
Il reste 25 jours pour convaincre. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de personnes qui sont dans l'hésitation et qui peuvent faire basculer le vote d'un côté ou de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le deuxième rejet de la proposition de loi au Sénat démontre l'absence totale de consensus sur la question. Et quand on interroge les Français, c'est le travail qu'a fait la Fondapol notamment, on découvre qu'en fait, un, la fin de vie n'est pas au premier rang de leur priorité, mais au 17e, et deux, ils ont compris aujourd'hui qu'on ne pouvait pas répondre à la défaillance du système de santé en donnant la mort et en donnant la mort aux plus fragiles. Donc que ceux qui nous écoutent se saisissent du pouvoir qui est le leur, qui est le nôtre à tous, d'écrire à leurs députés, d'écrire aux députés qui peut-être sont en hésitation. Et encore une fois, sans être dans une logique de condamnation, il y a beaucoup de gens qui se méprennent de bonne foi sur cette question, mais pour leur dire prudence et attention, parce qu'effectivement, ce combat de l'euthanasie est en train de devenir chaque jour un peu plus un combat d'arrière-garde. Et vous connaissez ces effets de cliquet, c'est-à-dire que quand on engage un certain nombre de réformes sociétales, il est parfois difficile de revenir dessus ensuite, et donc il nous reste 25 jours pour convaincre et pour convaincre que toutes les vies sont dignes d'être vécues et que toutes les vies se valent. J'en termine par cela. Le comité de l'ONU de protection de personnes handicapées a pensé la France il y a quelques mois en disant ce que vous êtes en train de faire est contraire à tous les engagements internationaux que vous avez pris vis-à-vis de la protection des personnes les plus vulnérables. Ce combat est un combat humaniste, c'est un combat progressiste. Précisément. Et donc, ce n'est pas une affaire de gauche, de droite ou de centre, c'est une affaire de conscience. Et une conscience, on en a tous hérité depuis nos premiers pas. Il faut la faire marcher maintenant. Et ceux qui nous écoutent ont le pouvoir de l'exciter un peu chez les députés en allant leur écrire courtoisement, mais pour leur dire « Vous ne pouvez pas, en décence, voter cette loi pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ».
Ah, écrire à son député, c'est une simplicité infinie. Il suffit de taper son nom sur Internet.
Exactement.
On tombe sur sa fiche à l'Assemblée nationale et le courriel de chaque député est disponible. Évidemment, vous avez raison de souligner, l'ONU a tensé la France et la France a apporté les réponses les plus pitoyables qui soient en expliquant qu'il n'y avait aucun problème pour considérer qu'au contraire, l'euthanasie étant un soin et que la destruction d'une vie étant une charité, donc que toutes les conventions qui avaient été signées elles seraient évidemment respectées. Il y a une tartufferie quand même incroyable de la part de ceux qui nous dirigent. Et en même temps, on sent bien que justement, les mots n'ont plus de valeur et que puisqu'on est capable d'expliquer que la GPA est éthique et que l'euthanasie est libre, égale et fraternelle, voilà, rien n'empêche et aucun discours, aucun chiffon de papier ne peut contraindre qui que ce soit.
Oui, l'hypocrisie est totale. D'ailleurs, la preuve, c'est que lors de l'examen au Sénat, la ministre de la Santé elle-même n'a pas voulu se déplacer. Elle y a envoyé, d'ailleurs, c'est symptomatique, la ministre en charge de l'autonomie et du handicap. Pour ceux qui imaginent que cette loi va concerner des personnes en souffrance, en phase terminale, le Premier ministre, on ne l'entend pas sur cette question. Il y a une gêne palpable jusqu'à l'intérieur du gouvernement. Mais agissez, bon sang, vous en avez le pouvoir. Alors on sait qu'il y a une pression aujourd'hui d'un certain nombre de lobbies, religieux d'ailleurs, enfin de spiritualité laïque, comme on les appelle pudiquement, mais qui sont au combat pour que cet examen aille jusqu'à son terme, mais personne, au fond, ne semble vouloir que cette loi soit adoptée, ou en tout cas, personne ne semble vouloir assumer qu'elle soit adoptée.
Sauf Yael Braun-Pivet qui explique que les Français la réclament, alors qu'ils réclament tout à fait autre chose. Merci mille fois, Rémi
Merci
Tell.
Merci à vous, Richard.
À dans 15 jours. Et tout de suite, ce sera la courtoisie avec Jérémy Combe et ensuite Bertie Vore qui nous parlera du numéro de Valeurs Actuelles.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
La semaine dernière, vous nous parliez du fait d'arriver en retard lors d'un spectacle, mais justement, donnez-nous des consignes pour être comme il faut de l'arrivée jusqu'au départ.
Alors effectivement, là nous sommes pas très loin de la période estivale et beaucoup de régions et de lieux de vacances offrent une proposition dense de festivals, de concerts, de pièces de théâtre et j'en passe. Proportionnellement, elle met l'accent sur les comportements à éviter quand nous y assistons.
Alors, par quoi voulez-vous commencer ?
Les lieux de spectacle, salles à ciel ouvert, théâtre, cabaret, sont des endroits où l'on ressent des sentiments collectifs, mais pas que. Chacun peut percevoir différemment le spectacle. Rester discret, pas de rire trop bruyant, de crise de larmes insupportables. Toujours la même règle, discrétion, distinction.
Je vous sens bien parti pour nous donner une liste à la Prévert des choses que l'on doit ou ne pas faire.
Croyez-moi, je préférais distribuer des bons points. Je suis sûr que comme moi, vous détestez vous prendre les pans du manteau ou autres vêtements de la personne qui regagne sa place. Vous voyez de quoi je parle. Eh bien, l'étiquette veut que nous retirions nos premières couches avant de traverser les rangs et surtout avant de nous asseoir. Toujours dans l'optique d'ennuyer le moins possible ceux qui nous entourent. Et c'est aussi une marque de respect pour les artistes. Pourquoi ? Ça peut induire, si c'est nul, on part illico. Une fois à votre place, même si le spectacle est hilarant, ne vous gondolez pas comme un ver de terre. Les places sont limitées, grande promiscuité. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on fasse. Alors là, même en 2026, la règle n'est pas encore claire pour tous. Il faut éteindre son portable ou le mettre en silencieux. Pas une fois sans que ça ne se produise. Ça ne vous parle pas ça, cher Richard ?
Yes.
Vous êtes très amoureux ? Faites une pause dans les lieux publics, même si l'artiste est votre idole et que vous êtes avec votre chérie. Nous l'avons déjà vu pas de démonstration en public. C'est très gênant, comme disent les jeunes. C'est la gênance.
La gênance. Alors, moi, parfois, je ne sais pas si je peux ou non applaudir.
Ah oui, ça, c'est vrai. Il est vrai que certains, surtout au théâtre, applaudissent à chaque fin de phrase. J'exagère à peine. La règle est d'attendre que la scène soit terminée, la chanson aussi, sauf si une tirade est incroyable, la salle en communion. Mais si vous sentez que vous êtes seul, alors stoppez immédiatement. Ça trouble le jeu des artistes. Le hic, je trouve, ce sont les standing ovations. Avant,
on se met debout.
Voilà, quand j'étais jeune, hier quoi, elles étaient rares. Aujourd'hui, elles sont monnaie courante. Si l'on reste assis, on est le paria. Mais faites ce que vous ressentez. On n'est pas obligé de se lever à l'unisson.
Pour terminer, y a-t-il des règles ? Vous savez, quand on arrive et que l'on est à l'heure, mais au bout du rang et on sait que les autres vont nous déranger.
Vous lisez dans mes pensées. Dans cette situation, eh bien, l'éducation vous impose de rester debout au bout du rang et de gagner votre place une fois ceux qui sont devant vous et qui sont déjà assis. Alors le problème peut être leur retard ou le début du spectacle. La règle, rester le plus longtemps possible debout. C'est vexant, je sais, quand on poirote, je vous l'accorde, mais ça dérange le moins possible tous les autres. Si le placement de la salle de spectacle est libre, alors il faut combler, comme on dit, les sièges vides. Il n'est pas nécessaire de laisser un siège vide entre vous et votre voisin inconnu. Afin que les derniers couples puissent être ensemble, asseyez-vous les uns à côté des autres ou alors laissez deux sièges vacants entre vous. Parce qu'en règle générale, on va plutôt à deux au spectacle.
Ah ben, je vois, ben, le spectacle, c'est comme la messe. Hein, et pour remplir l'église, on fait exactement comme lorsqu'on va au théâtre. Merci beaucoup, Jérémy Combe.
Je vous en prie, à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse.
Et aujourd'hui, ce n'est pas Tugdua Denis qui va nous parler de valeurs actuelles, mais c'est Bertie Vore. Bonjour Bertie.
Bonjour monsieur.
Bonjour mademoiselle. Vous êtes journaliste société à valeurs actuelles et si Tugdua vous a dépêché, c'est parce que vous êtes l'auteur de tout ou partie, j'ai pas fait attention à chaque signature, de cette enquête sur le canon français, donc dont on nous explique, s'il faut entendre certains députés LFI, qu'ils terrorisent, c'est une citation, les campagnes françaises.
Oui, en effet, j'ai écrit un article immersion dans le canon français. En fait, nous y avons été avec une équipe de VA+ en décembre pour faire un reportage. Et donc, il y a une vidéo que vous pourrez retrouver sur la plateforme YouTube de VA+. Et là, nous avons décidé de consacrer cette une au canon français. Donc, le canon français, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a été créée par deux amis, Pierre-Alexandre Debois et Géraud Dufayet de la Tour, à peu près au moment du Covid, pour aider au départ un ami vigneron qui avait du mal à vendre sa production. Et ils ont fait un premier banquet en 2022 au château de Gizeux. Il y avait à cette époque-là 80 personnes. Mais comme ce fut un succès, ils ont poursuivi cette initiative. Ils sont allés dans beaucoup de régions. Et aujourd'hui, il y a entre 1500 et 4000 personnes par banquet. Donc, c'est un véritable succès. Et comme l'explique Géraud Dufayet de la Tour, un banquet du canon français, c'est de bons produits, de bons copains et beaucoup de fêtes. Donc, absolument pas le côté politique que veut nous faire croire la gauche et LFI. Leur objectif, c'est de mettre en valeur le terroir. Par exemple, dans le banquet vendéen, le menu, c'était des mojettes vendéennes, de la brioche vendéenne. Donc, vraiment, c'est de mettre en valeur les producteurs locaux et de faire connaître les traditions locales. Mais c'est aussi, surtout, de créer un lien social dans une société qui est de plus en plus individualiste. C'est un moment où chacun se retrouve, des personnes de toutes générations confondues, des personnes de tous milieux aussi, sans idée politique manifeste. On voit notamment dans l'histoire française que les banquets sont importants. Il y a les banquets gaulois, il y a les banquets du Moyen-Âge, hein. On a eu à chaque époque. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est les canons français. Et nous avons voulu mettre en avant ces canons aujourd'hui sur notre une, parce que notre art de vivre est aujourd'hui attaqué par la gauche. On voit dans notre société le clivage droite-gauche, même un climat de droitophobie, comme l'écrit Tugdual dans son édito au début du journal. Et l'objectif de la gauche, en fait, est de nous voler notre art de vivre. nos traditions. On le voit avec les crèches, on le voit avec les sapins. On voit aussi avec Marion Maréchal qui a un banquet récemment chanté le 31 du mois d'août et a été reprise pour avoir chanté ce chant que l'on connaît tous. Et le canon français, lui, n'est pas non plus épargné par ces attaques de la gauche. Ils veulent criminaliser nos traditions, les traditions qui sont mises en valeur justement au canon français. Ils politisent à outrance notamment la consommation de cochons. Ils diabolisent la chanson française.
Alors que si je ne m'abuse, on mange de tout au banquet français. Et j'en parlais avec l'un de ses fondateurs. Vous avez même dévoré de l'autruche. Alors pas forcément vous en décembre, mais voilà, on va chercher la viande du coin. Alors je ne sais pas de quel coin exactement français était l'autruche, mais voilà, on mange de l'oie, on mange du mouton, on mange du cochon, on mange du bœuf. Voilà, on mange de tout.
Ah, exactement. Et donc les promoteurs. Ceux qui attaquent le canon français, donc la Nouvelle France, les promoteurs du multiculturalisme, reprochent à ce canon d'exclure des personnes musulmanes ou véganes, alors que, comme l'expliquent très bien les fondateurs du canon français, en fait, c'est une offre qui est faite sur le marché et on accepte ou pas d'y aller, mais c'est comme toutes les offres que nous avons. Voilà, et depuis octobre-novembre, le canon français est de plus en plus attaqué. Il y a eu en Bretagne une pétition de 700 personnes qui reprochaient l'instrumentalisation de nos cultures traditionnelles et gastronomiques. Ils ont voulu empêcher ce canon français qui finalement a eu lieu un peu plus tard. À Caen, donc plus récemment, c'était en avril, il y a une eurodéputée LFI, Emma Foureau, qui pareil a souhaité empêcher ce canon français. Et d'ailleurs, donc, dans notre dossier, on peut retrouver une enquête d'Amaury Bucaud qui parle d'un courrier de gérant d'une vingtaine de bars qui a envoyé un courrier à l'hôtel de ville, à la mairie de Caen, expliquant qu'il y avait eu des débordements après le canon français. Et en fait, il l'explique très bien dans son enquête. En réalité, sur cette vingtaine de bars et de restaurants qui ont signé ce courrier, il y a la moitié qui était hors de la zone des faits et plusieurs qui expliquent qu'en fait, ils l'ont signé, mais par mimétisme. Voilà, parce qu'on leur a demandé. Et en remontant, il a découvert notamment que ce courrier était à l'initiative d'un gérant d'un bar qui s'appelle La Tomate. Et ce gérant-là suit des pages anti-facan ou l'Union communiste libertaire. Donc, c'est très intéressant de voir en fait, que l'extrême gauche est derrière tout ça. Et ce que dit Amaury Bucaud, c'est que certes, il est légitime de s'interroger sur les possibles motifs idéologiques, justement, de ce courrier.
Voilà. Et d'une manière générale, de la manière dont l'extrême gauche a décidé de partir en guerre contre le canon français. Il y a d'autres arguments contre le canon français que ceux que celles qu'il mobilise. Eh bien, en tout cas, votre enquête, donc je rappelle, coupable de tradition, le dernier numéro de Valeurs Actuelles, permet de faire le point avec un article de Laurent Dandrieu, votre article, Bertie Vore, donc puisque vous êtes immergé dans le canon français, et l'enquête d'Amaury Bucaud sur justement ceux qui sont contre et qui n'hésitent pas à mentir pour justifier ces interdictions qui ne dérangent personne, sinon la gauche. Merci beaucoup et j'ose pas vous dire à bientôt, mais en espérant que vous signerez une autre grande enquête et que Tugdual vous cédera à nouveau sa place.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'accueille mes bérets traditionnels que sont Alexandre, Alice, Magda et Louis.
Alice refuse, elle est juste de côté.
Alice refuse.
Là, on la regarde.
Alice et en fait, est en train de nous adresser des gestes grossiers à travers la vitre. Nous sommes tous assez surpris.
Je propose que personne ne parle jusqu'à ce que Alice vienne.
Ouais, ouais, ouais,
voilà, on va faire ça. Temps de silence.
Louis, vous aviez quelque chose à nous dire.
Bah, écoutez, pour une fois, j'ai une bonne nouvelle parce qu'avant, on avait une petite, une zone libre façon bonne nouvelle dans un temps ancien de ligne droite.
Mais ça, c'était avant que j'arrive les bonnes nouvelles. Je ne supporte pas ce genre de truc.
Voilà, mais là, pour une fois qu'il y en a une, voilà, c'est quand même à noter. Alors, Charles Laloncle, vous connaissez, et une bonne nouvelle le concerne, et ça ne parle pas de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, parce qu'évidemment, Yael Braun-Pivet avait tenté de le cibler sur des relations probables avec une collaboratrice. Et cette collaboratrice...
Admise, je crois, d'ailleurs, aujourd'hui.
Pardon ?
Elle soit acquise, enfin, c'est admise maintenant.
Oui, c'est admise, ouais, mais alors, ce qui est justement pointé par Yael Braun-Pivet, c'est le fait qu'elle ait favorisé cette personne en la nommant à un poste clé, et ce qui est interdit, en tout cas, dans la... alors, dans une loi spécifique. Alors, non, mais en tout cas, c'est avec les femmes, les... Expliquez-moi ça, Alexandre.
On n'a pas droit d'embaucher son conjoint, son concubin,
voilà,
etc.
À la suite de l'affaire Fillon, il me semble. Hein.
Oui, et puis à la suite de toutes les affaires qui n'ont pas été dénoncées par ceux qui sont excités sur Fillon. Et donc,
et voilà, donc Paris Match a dévoilé des photos, en tout cas volées, de Charles Alloncle et d'une femme. Et donc,
sa collaboratrice, pardon.
Sa collaboratrice, également privée, a immédiatement ensuite saisi le déontologue de l'Assemblée nationale.
Qui, lui, a considéré qu'il n'avait pas besoin de se mobiliser quand Raphaël Arnaud employait des fichiers S même continuait à avoir des contrats avec des gens qui étaient impliqués dans la mort de Quentin Derenque. Mais évidemment, le cul, c'est beaucoup plus important que les assassinats.
Exactement, bien dit. Et donc, après des semaines, en tout cas des jours de cabale médiatique, les conclusions du déontologue sont tombées. Charles Alloncle et sa collaboratrice n'entretiennent aucune relation liée à un mariage, à un pax ou un concubinage. En d'autres termes, c'est tout à fait légal et il n'y a aucun problème, il n'y a rien à voir.
Mais même, voilà. C'est un peu plus que ça, parce qu'en réalité, il y a un point qui est effectivement, donc il y a la situation de est-ce qu'on est effectivement compagnon ou pas, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui était à établir aussi, c'est en fait, est-ce qu'il a nommé, pour faire simple, sa petite copine en tant qu'assistante parlementaire, ce qui n'est pas le cas parce que leur relation a débuté pendant.
Oui, voilà, réalité, ils se sont rencontrés
Au fur et à mesure, exactement, durant la commission d'enquête apparemment, et donc ça fait que finalement, en fait, il n'a pas embauché sa petite copine, pour faire simple, il a en fait embauché une femme qui est devenue après, voilà. En fait, finalement, avec qui il a eu une relation après, et donc à partir de ce moment-là, en fait, c'était devenu tout à fait dans les règles quelque part.
C'est voilà, légal, c'est légal. Sachant que ce sont donc des députés qui sont pour la légalisation de la drogue et qui ont le nez plein de schnouf. Et là aussi, Yael Braun-Pivet n'a pas jugé utile de saisir le déontologue. Ce sont ces mêmes députés qui abusent régulièrement de leurs indemnités. Et là aussi, Yael Braun-Pivet n'a pas jugé bon de choper le déontologue. C'est Thomas Porte qui a nommé sa petite amie officielle, sa collaboratrice parlementaire et sa suppléante au moment des élections législatives, et Yael Braun-Pivet et le déontologue étaient à la plage, à la boule, à ce moment-là, en mission d'étude.
Le fameux deux fois de
l'Alexandre. Moi, j'ai très rapidement, pour laisser un peu de place je voudrais lancer un appel à l'instigation du Rocher des Aigles, bien sûr. Donc, si vous trouvez Léon, n'hésitez pas à nous dire. Le vautour Léon, c'est-à-dire que évidemment le vautour Léon, donc comme vous le savez peut-être, hein, mais est introuvable depuis quelques jours. Donc, théoriquement, il est entre Saint-Cirq-la-Popie et Cabriret, d'accord. Donc si jamais vous traînez dans le coin, n'hésitez pas.
S'est installé au-dessus de la propriété d'Édouard Philippe en attendant que le cadavre passe. Et vous, Magda?
Moi, c'est plus un cri de jacuzzi étonné que je viens d'apprendre quand on meurt de chaud dans nos appartements parisiens, qui viennent d'ouvrir un deuxième. Alors je ne savais pas que le premier existait, mais des palaces pour chats. Ouais, qui s'appelle la maison des ronrons. Et donc, et même les propriétaires des chats n'ont pas le droit d'y dormir, c'est vraiment pour les chats. Et donc, ils sont au frais, il y a la clim, de la nourriture. Ouais, c'était mon petit moment de jacuzzi.
De jalousie féline.
De jalousie féline.
Parfait. Merci beaucoup, Magda. C'est le moment de nous quitter, chers amis, pour ceux en tout cas qui nous suivaient sur YouTube et sur X. Mais on ne va pas se quitter sans vous réclamer un peu d'argent, parce que voilà, si vous avez envie d'entendre parler d'hôtels pour chats, si vous avez envie d'avoir des nouvelles du vautour Léon, eh bien, il faut que cette émission puisse exister. On fait deux ou trois trucs à côté. Ouais, mais voilà, n'hésitez pas, soutenez Radio Courtoisie.
Et pour nous soutenir, vous pouvez nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr. Et vous pouvez également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, et avec tout ce qu'on fait, on en parlera tout à l'heure, mais tout de suite, on va pouvoir réécouter le sujet sur la concurrence déloyale et les politiciens haineux, un interview avec Véronique Le Floc.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, c'est avec Véronique Le Floc, éleveuse de bovins et productrice de lait dans le sud Finistère. Bonjour Véronique Le Floc.
Bonjour.
Alors, la première actualité paysanne, si j'ose dire, c'est cette canicule. Si j'ai bien compris, le fait qu'il fasse si chaud, avec 10 degrés parfois au-dessus des moyennes saisonnières, a une influence directe sur justement les vaches. Mortalité animale accrue, moins de lait.
Eh bien, tout à fait. J'ai l'impression que vous avez un passé de paysan, mais je crois qu'on l'a tous dans nos gènes, dans nos familles. Ce qu'on vit aujourd'hui, physiquement, nous-mêmes, humains, est difficile à supporter. Mais pour nos animaux, ça l'est encore plus. Un animal, une vache, c'est plus de 500 kilos, jusqu'à une tonne pour les grosses vaches à viande et les taureaux. Donc, bien évidemment, avec cette chaleur, ils doivent consommer plus d'eau. Et un animal, ça consomme en temps normal 50 litres d'eau par jour jusqu'à 80. Donc là, forcément, ça recherche de l'ombre et ça recherche à avoir de l'air aussi. Et donc, avec trop de chaleur, ça consomme moins. Donc, on les sent, elles peuvent aussi avoir du mal à respirer. Donc, la production s'en ressent. Donc, on joue avec... avec le temps pour justement leur bien-être animal, pour leur offrir le plus d'ombre possible et parfois choisir le bâtiment pour les laisser en intérieur, là où ça va être le plus frais.
Alors, ces difficultés sont évidemment renforcées par toutes ces querelles sur l'accès à l'eau et la manière dont certains voudraient que l'élevage soit très consommateur d'eau avec des chiffres absolument délirants. Et d'autres expliquent, alors que les céréales aussi risquent de souffrir, je crois que c'est la période où les épices forment. Évidemment, en sécheresse, il y a une chance qu'il y ait moins de céréales. Les céréales en France contribuent grandement à l'alimentation animale. On est en ce moment donc avec une gestion de l'eau qui est plus politique que raisonnable, qui met en avant la manière dont les écologistes pensent cette gestion de l'eau plutôt que la manière dont les paysans aimeraient pouvoir utiliser cette ressource.
Alors, je pense que si on n'arrive pas à régler ce problème, c'est bien parce que politiquement, on ne veut pas régler ce problème. Tout le monde doit avoir conscience que l'eau, ce n'est pas que les agriculteurs. Les prélèvements d'eau en France sur les 33 milliards d'eau de mètres cubes qui sont prélevés, c'est d'abord pour refroidir nos réacteurs nucléaires. Ensuite, on a tout ce qui est eau potable, les collectivités, et ce volume-là, il est le double de ce que prélèvent les agriculteurs, 3 milliards d'eau de mètres cubes. Et à force de vouloir disparaître, voir disparaître les agriculteurs, eh bien, le volume d'eau qu'on importe aujourd'hui avec rien que les légumes et les fruits importés, c'est 3 milliards d'eau de mètres cubes aussi importés. Donc, à un moment, il va falloir régler ce problème. Alors, tous les ans, on en reparle. Si on prend Emmanuel Macron, et je ne remonterai pas trop loin parce que sinon je peux encore remonter, mais 2023, il annonçait son plan eau. Son plan eau pour aller 100 millions d'euros pour aider à faire des réserves, à entretenir. Mais il y avait aussi, et je tiens à le dire, je pense que je ne l'ai jamais dit nulle part, il incluait 30 millions d'euros pour aider les collectivités à acquérir le foncier agricole. Voilà une chose dont on n'a jamais parlé. Donc, avril 2023. Puis surviennent les manifestations de fin 2023, début 2024, et Gabriel Attal se dit « c'est un sujet important, je vous ai compris ». Et il finit par nous annoncer en mai 2024 une centaine de réserves d'eau va être financée chaque année. Alors pourquoi 100? Pourquoi pas 100 par département? Pourquoi pas autant que nécessaire? Et on continue, on change de gouvernement et Annie Genevard se déplace dans les Pyrénées-Orientales, département très, très touché et en permanence, pour y annoncer, ben, je vais vous faire un plan eau pour 3 départements. Avec le combat syndical, on passe à 18 départements. Nous avions demandé au moins tout le sud de la France, la moitié sud de la France. Alors, on passe à 18, on en oublie 3 parmi les autres. Et là, on nous annonce 50 millions d'euros d'aide. Sauf que c'est oublié que tout ça, ça rentre dans une obligation de chacun des États membres pour 2035 de mettre en état toutes les eaux secondaires, donc nos eaux de traitement, nos eaux usées. Et là, c'est un plan qui est évalué, je crois, à plus de 240 milliards d'euros pour toute l'Union européenne. Donc, annoncer des millions d'euros, faire croire que les agriculteurs nous privent d'eau, parce que vous verrez qu'il n'y aura plus d'agriculteurs, eh bien, il y aura toujours pas plus d'eau parce que le changement climatique, il est là. Les agriculteurs, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font des haies, ils plantent, on s'adapte. Hein. Mais pour autant, encore rappeler, les agriculteurs prélèvent de l'eau. Mais ils la stockent aussi. Parce que justement, la France, c'est 27 millions d'hectares. Donc nous, quand elle tombe sur nos champs, elle fait pousser l'herbe, les vaches broute cette herbe, on récolte des céréales, on récolte des fruits, des légumes. Mais quand l'eau tombe sur les villes, sur 12 millions d'hectares de villes, bientôt il y a la moitié de la surface agricole qui est bétonnée. Alors, l'eau, elle est prélevée dans nos champs hein, ou dans les nappes. Quand elle tombe sur la ville, eh ben, elle ne peut pas s'évacuer. Donc, de toute manière, elle finit à la mer. Et donc, je pense que le problème, il faut aussi aller le chercher du côté des villes et puis arrêter de taper sur les agriculteurs parce que tout ce qu'on vit devient insupportable. En ce moment, c'est la chaleur, c'est des pertes, c'est le coût de l'énergie, c'est tout qui s'accumule. Et nos jeunes qui veulent y aller, si en plus vous leur mettez un coup de bâton pour, entre guillemets, excusez-moi, mais pour les emmerder avec tout ça, ça ne va pas le faire, quoi.
Alors, ça va d'autant moins le faire qu'on va encore poser une question sur cette gestion de l'eau. Je regardais ce que disait Philippe Méda, donc, qui est président de la coordination rurale 66. Il est arboriculteur. Il nous dit « J'ai réduit mon irrigation telle que le dernier arrêté préfectoral le prévoyait. C'est simple, mes arbres y sont quasiment tous restés. Je vais devoir tout arracher et tout replanter. » Tu vois, l'administration impose des règles sous prétexte de gérer une ressource, mais les règles qu'elle impose sont juste délirantes.
Et surtout que quand on irrigue, c'est à peine 6% de la surface française, certains vont dire « Oui, mais ça augmente chaque année. » En fait, ça augmente. Ça a augmenté de 1,1%, je crois, en 10 ans. Sauf que comme la surface agricole diminue, ça représente davantage. Donc, bien évidemment, on est obligé d'avoir recours à l'irrigation. L'irrigation nous impose d'avoir des compteurs et de déclarer avant avril de mémoire les volumes d'eau qu'on va prélever de avril à fin octobre. Donc, ces volumes sont validés par les personnes compétentes et c'est sur ces volumes qu'on vient à un moment, alors qu'on les a validés, nous dire bah, « vous allez diminuer de 25%, voire plus ». Sauf que ces volumes en plus, les agriculteurs payent. Donc, après, d'autres vont trouver à dire « Oui, mais l'irrigation ne sert pas à tout le monde. Ben, » bien sûr, on n'est pas tous sur des mêmes bassins versants. On n'est pas tous soumis aux mêmes natures de sol. On n'a pas tous besoin. Je prends les Deux-Sèvres. Alors, certains vont dire, là où il y avait Sainte-Soline, où il y avait toutes ces histoires de bassines, ça ne sert qu'à 5% des agriculteurs. Eh bien, vous allez un peu plus bas sur un autre bassin, eh bien, c'est 100 agriculteurs sur les 220 qui ont accès à l'eau. Donc, bien sûr qu'on ne va pas irriguer si on n'en a pas besoin. Quand vous êtes dans des cultures qui peuvent s'en passer, eh bien, on n'ira pas irriguer. Moi, mes prairies vont bientôt être toutes grillées et très vite, si ça continue. Eh bien, je n'irai pas pour autant mettre un système d'irrigation. Par contre, une réserve d'eau, oui, serait utile.
Alors, c'est le problème de l'eau, mais en fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a bien sûr le conflit israélo-américano-iranien fait en sorte que le détroit d'Ormuz est bloqué, donc les engrais augmentent. Il y a d'autres conséquences géopolitiques des décisions européennes, par exemple, le prix des œufs, c'est-à-dire les importations d'œufs sont en hausse de 21% avec des œufs à très bas prix qui viennent en partie d'Ukraine, et c'est une concurrence totalement déloyale pour les agriculteurs français qui se retrouvent, alors qu'on leur a demandé de monter en gamme avec des élevages plus chers pour produire des œufs dans le respect du bien-être animal, ils sont confrontés à une concurrence en fait mise en place par la France et l'Union européenne à laquelle ils ne peuvent rien.
Alors là, les députés ont encore des bonnes idées. Enfin, il ne faut que les recycler. D'ailleurs, vous avez tous entendu parler ou pas de la loi d'urgence qui devrait bientôt accoucher, hein, et bien plus vite que d'ailleurs la loi d'orientation agricole qui avait mis 2 ans et demi pour sortir en février 2025. Eh bien, dans cette loi, ils reprennent un article qu'ils avaient déjà mis dans la loi Egalim, laquelle prévoyait que l'on couvrirait les coûts de production de nos agriculteurs, de nos produits, eh bien, on prend le même article pour dire qu'en France, pour le respect de l'environnement, pour le respect de la santé de tous, de nos animaux et des humains, eh bien, on n'importera plus en France des produits ayant fait usage de produits de substances interdites en France. Très bien. La différence, c'est qu'on a rajouté pour la santé humaine, animale.
Ah, je crois qu'on a perdu Véronique Lefloc. Alors, qui était en train de nous parler de la manière dont les députés français ont effectivement pondu une nouvelle loi pour faire en sorte de limiter les importations, en même temps donc qu'on nous impose plusieurs traités de libre-échange, on se retrouve avec des lois qui, elles, tentent vaguement de pallier la misère. Évidemment, elles y arrivent mal, ne serait-ce que parce que ces lois sont mal faites. On s'est rendu compte que la loi Egalim, par exemple, qui était censée permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs, en fait, ne fonctionne pas du tout. Lors d'une commission d'enquête sénatoriale, il y a quelques jours, dont le rapport a été rendu il y a quelques jours, un des sénateurs faisait remarquer que, par exemple, le directeur des centrales d'achat du groupement Leclerc avait expliqué qu'il contournait facilement la loi Egalim en allant acheter à l'étranger les denrées qu'ils n'avaient pas besoin d'acheter en France, et donc qu'ils respectaient le cadre européen en passant ailleurs que par les systèmes qui sont, eux, à la mesure des députés français. Et ça, la France n'y peut rien. Donc ces lois Egalim ne servent à rien et ne protègent absolument pas le revenu des agriculteurs. Et d'une manière générale, les autres lois elles-mêmes sont tout aussi inefficaces. Arnaud, est-ce que par hasard nous avons récupéré Véronique Lefloc? Bon, alors malheureusement non. Eh bien, j'en suis navré. Est-ce que par hasard, notre ami Nicolas Vidal est en train d'attendre dans le Zoom? Non plus. Bon. Alors, voilà, chers auditeurs, là, je suis un peu en peine. J'ai perdu ma première invitée. Mon deuxième invité n'est pas encore arrivé. Est-ce que par hasard, le camarade Alexandre de Galzin pourrait venir voler à mon secours pour me permettre de parler avec lui, évidemment, de la situation des agriculteurs? On avait évoqué avec Véronique Lefloc la gestion de l'eau. Dans tous les chiffres qu'a donné Véronique Lefloc est tout à fait intéressant. D'une part, évidemment, la longue succession des mesures idiotes ou inutiles proposées par Annie Genevard ou Gabriel Attal, qui d'ailleurs n'ont jamais été suivies d'effets réels, et une fois de plus avec des chiffres, on ne comprend pas pourquoi 3 départements plutôt que 18, on ne comprend pas pourquoi 100 réserves plutôt que 1000, enfin bref, on ne comprend pas. On a aussi parlé bien sûr de la concurrence organisée par l'Europe, avec notamment les œufs qui en sont totalement emblématiques. Dire les agriculteurs français réussissent à couvrir en fait les besoins de la grande distribution, mais pas du tout les besoins de l'industrie ni ceux de l'hôtellerie-restauration, donc qui importe massivement les œufs ukrainiens. Et on a ainsi le sentiment en fait d'une profession de plus en plus réduite sur le territoire français et qui est systématiquement sacrifiée, toujours prise entre deux feux, le feu de la réglementation française et européenne et le feu en fait de la nature, qui elle impose évidemment de pouvoir produire, et d'ailleurs qui nous imposera bientôt de devoir manger vraisemblablement. Merci beaucoup de nous avoir rejoint, Alexandre de Galzin.
Ah oui, parce qu'il nous reste 22 secondes de cet entretien, donc effectivement je pense que c'est important d'apporter de nombreux éclairages, effectivement, peut-être une analyse en 18 secondes de la situation des agriculteurs en France, c'est ça?
Je ne savais pas, j'espérais que vous alliez venir. Merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cet horriblement long tunnel que nous avons infligé aux éditeurs de Radio Courtoisie, et ayez la bonté d'appeler Véronique Lefloc pour lui présenter nos excuses les plus plates, en tout cas les miennes.
Très bien.
Mais merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Chers amis, bonjour. Je tiens d'ailleurs à expliquer que c'était la connexion de Véronique Flock qui a sauté de son côté, donc c'était pas de notre faute. Et Véronique Flock a eu la très gentille idée de nous expliquer qu'elle était désolée, nous aussi. C'était un entretien bourré d'informations intéressantes. Il y en avait une caisse entière à suivre derrière. On la réinvitera. on l'a déjà dit à plusieurs reprises, voilà, pour permettre d'avoir Véronique Flocq au téléphone, mais aussi Nicolas Vidal, Alexis Poulain et tous les invités de ce matin, eh ben, il y a besoin d'avoir un réalisateur, il y a besoin d'avoir un appareil, il y a besoin d'avoir des sons, il y a besoin d'avoir une console, il y a besoin d'avoir une liaison Internet, il y a besoin d'avoir une connexion avec les émetteurs qui permettent de diffuser le signal hertzien. Et tout ça, en fait, coûte de l'argent.
Et pour nous soutenir financièrement et nous permettre de subvenir à tous ces besoins, nous comptons sur vous. Donc, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Et quand la matinale est finie, Radio Courtoisie continue. C'est une radio qui émet 24 heures sur 24. Qu'est-ce que nous allons entendre aujourd'hui?
Tout à l'heure, à midi, en direct, Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel, avec entre autres un grand entretien avec Guillaume Bernard et une table ronde sur la transmission et l'engagement, ou comment former aux idées politiques et à l'action concrète dans la cité, en compagnie des responsables de l'IFP. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon avec le 6e épisode de Marie-Josette Liégeois. 17h30, en direct, Restons Courtois avec Marc Baudrier ce soir. Les juges contre la France, faut-il limiter d'urgence le pouvoir des juges, avec François Guéranger, auteur de La Revanche des juges. Et puis Mélenchon président, hypothèse folle ou risque réel. À 19h30, le Libre Journal des Artisans, ce sera un document d'archives. Et puis enfin, ce soir, à partir de 21h30, Le Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge.
Merci Arnaud. Et moi, je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à lundi, car demain, c'est samedi.
À lundi.